Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, heure de Paris, 9h, temps universel, dans 30 minutes, comme tous les vendredis. La Libre Antenne, l'occasion pour vous tous de lancer le débat sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine dans l'actualité française, africaine, internationale. Vous savez que tous les sujets nous intéressent, donc n'hésitez pas, rejoignez-nous, appelez-nous, vous êtes nombreux. Et ce n'est pas une surprise, à souhaiter réagir à la très probable désignation dans quelques heures de la Rwandaise Louise Mushikiwabo au poste de secrétaire général de la francophonie. C'est un choix qui fait débat, mais d'autres sujets vous ont interpellé, comme la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire, ce sera demain, l'attente des résultats de la présidentielle au Cameroun, bref, les sujets ne manquent pas, vous êtes les bienvenus, 33 9 693 693 70. Mais d'abord, c'est votre rendez-vous privilégié avec les journalistes de RFI, vous nous posez vos questions sur l'actualité et nos experts ici à Paris, nos envoyés spéciaux, nos correspondants, vous répondent évidemment en direct. La première question ce matin nous est posée par Maki. Bonjour.
Oui, Juan, bonjour et bonjour à tous.
Vous avez une question sur la lutte contre le réchauffement climatique après la publication en début de semaine du rapport alarmant des scientifiques du GIEC.
Exactement, Juan, exactement. Donc récemment, ces experts ont publié ce rapport sur les conséquences possibles d'un réchauffement de l'atmosphère à 1,5 degré. Alors, du coup, j'aimerais savoir comment les gouvernements peuvent concrètement ne pas dépasser le seuil de 1,5 degré fixé comme objectif d'ici 2030.
Oui, c'est une question pertinente que vous posez, d'autant qu'il y a urgence, hein, selon les experts ONU du climat. Il n'y a plus une minute à perdre. Bonjour Anne-Cécile Bras.
Bonjour Juan, bonjour Maki.
Spécialiste des questions environnementales à RFI, vous présentez le magazine C'est pas du vent, les jeudis et vendredis à 14h10, temps universel. Avant de répondre précisément à la question de Maki, Anne-Cécile, pouvez-vous nous rappeler déjà à quoi correspond cet objectif d'1,5 degré?
Oui, alors il vient de l'accord de Paris qui a été ratifié, vous vous en rappelez, par 180 pays et qui est entré en vigueur en novembre 2016. Les pays qui ont signé cet accord se sont engagés à limiter le réchauffement du climat de la planète bien en dessous de 2 degrés par rapport à 1880, c'est-à-dire en fait avant la révolution industrielle, et si possible de viser à poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré d'ici 2100. Ce dernier objectif a été ajouté à l'époque sous la pression de l'Alliance des petits États insulaires qui regroupe les 44 pays les plus exposés aux effets du changement climatique et qui émettent le moins de gaz à effet de serre. Mais en 2015, quand l'accord de Paris a été adopté, certains représentants de pays disaient rester sous la barre des 1,5 degrés, c'est impossible, d'autres affirmaient le contraire. Et les pays ont donc décidé, c'est une demande des États, ils ont demandé l'avis du GIEC sur la question, d'où la publication de ce rapport.
Rapport alarmant, je le disais à l'instant en introduction, Anne-Cécile Bras, pour répondre donc à Maki, que doivent faire les gouvernements concrètement pour ne pas dépasser ce seuil?
Eh bien, c'est tout l'objet de la troisième partie du rapport, un rapport qui se veut le plus concret possible. Et donc le rapport explique que nous devons réduire les émissions de dioxyde de carbone mondial de 45% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2010. Alors c'est un peu abstrait dit comme ça, mais ça implique des transitions sans précédent dans tous les aspects de la société, énergie, industrie, gestion des terres, bâtiments, transport, urbanisme. C'est un changement radical de nos comportements, de nos modes de vie. Il faut aussi augmenter massivement les investissements dans les technologies qui émettent peu de gaz à effet de serre. Alors il y a une bonne nouvelle quand même, hein, c'est qu'il y a eu des progrès rapides, par exemple dans le domaine des énergies renouvelables durant ces dernières décennies. Le solaire et l'éolien sont désormais compétitifs par rapport aux centrales à gaz ou à charbon, mais il faut aller beaucoup plus vite dans leur installation. Il faut modifier aussi nos modes de transport, aménager nos territoires, changer notre alimentation en mangeant moins de viande, notamment dans les pays occidentaux. Bref, on connaît la liste des efforts à faire, mais ça ne suffira pas, précise le rapport. Il faudra aussi développer des technologies qui absorbent le carbone de l'atmosphère, comme planter des arbres, restaurer des écosystèmes, utiliser de la bioénergie en captage et en stockant le carbone émis, modifier aussi nos méthodes agricoles, et certaines de ces technologies n'en sont qu'à leur balbutiement.
Oui, enfin, à vous entendre, le chantier est titanesque, il faut des changements sans précédent. Du coup, Anne-Cécile Bras, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que finalement, il n'est pas trop tard pour réagir?
Alors le rapport est clair là-dessus, hein. C'est évidemment pour appeler à un sursaut des décideurs politiques, et les scientifiques disent ce n'est pas impossible, mais nous devons agir vite et tout de suite, puisque je vous le rappelle, depuis 1880, les activités humaines ont déjà provoqué un réchauffement planétaire de l'ordre de 1,5 degré. On subit d'ailleurs déjà les conséquences de ce degré de réchauffement avec l'intensification d'événements extrêmes, la montée du niveau des mers, la modification des cycles de pluie. Et si le climat continue à se réchauffer au même rythme, précise le rapport du GIEC, et bien nous atteindrons les 1,5 degrés entre 2030 et 2052, et pas du tout en 2100. Et alors là, nous basculerons au-delà, dans un monde très complexe, avec des pertes massives de rendement agricole, des pénuries d'eau, des événements climatiques extrêmes et la possible disparition des récifs coralliens, par exemple. Donc la conclusion du rapport est limpide. Chaque demi-degré de réchauffement compte, chaque année compte et chaque choix compte. Ne pas agir aujourd'hui, c'est augmenter le fardeau pour les jeunes générations qui devront faire face aux conséquences du réchauffement et à des options d'action plus difficiles et plus risquées.
Un scénario qui fait peur tout de même. Maki, a-t-on répondu à votre question ?
Parfaitement, Ron, parfaitement.
Merci à Anne-Cécile Bras, qu'on retrouve tout à l'heure à 16h10, heure de Paris, 14h10, temps universel. De quoi parlerez-vous dans C'est pas du vent ?
Eh ben, d'un rendez-vous qui s'appelle la France des solutions. Nous vous ferons découvrir à travers cette opération des porteurs d'initiatives qui justement font la transition écologique dans des domaines aussi variés que l'accès à l'eau, la gestion des déchets du bâtiment, le bricolage partagé, oui. Un maire qui a installé une centrale solaire dans son village, ou encore quelqu'un qui permet d'accéder à des poissons directement à la descente du bateau.
Ah, d'accord. Bon. Initiative qu'on suivra donc tout à l'heure avec vous, Anne-Cécile Bras, dans C'est pas du vent, 14h10, temps universel. Merci à vous et bonne journée. Il est pour l'instant 10h18 à Paris. Vous nous appelez, vous nous rejoignez. L'antenne vous appartient, 33 9 693 693 70. Bonjour Florent.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à Yaoundé.
Yaoundé au Cameroun, vous avez des questions justement concernant le scrutin présidentiel de dimanche dernier.
Oui, moi je me suis autoproclamé victorieux à l'élection présidentielle du dimanche dernier, alors que c'est le Conseil constitutionnel qui a habilité à proclamer les résultats des élections au Cameroun. Bien sûr, ça, j'aimerais savoir sur quel élément concret se base s'appuie Maurice Kamto pour revendiquer la victoire.
Oui, Maurice Kamto, l'un des principaux opposants, un des principaux candidats, qui a effectivement créé la surprise en se déclarant vainqueur de l'élection moins de 24 heures après la fermeture des bureaux de vote. Et vous le disiez à l'instant, Florent, seul le Conseil constitutionnel est habilité à prononcer les résultats officiels dans un délai de 15 jours. Bonjour Polycarpe Essomba.
Bonjour Juan, bonjour Quentin.
Quentin, effectivement, qui nous donne un coup de main, enfin qui fait le lien entre les auditeurs de RFI et nos correspondants, nos envoyés spéciaux à travers le monde. Polycarpe Essomba, rappelons que pour clamer sa victoire, l'opposant a utilisé une métaphore sportive. Je le cite, « J'ai reçu mission de tirer le penalty, je l'ai tiré et je l'ai marqué ». Concrètement, sur quels éléments s'appuie-t-il pour revendiquer sa victoire ?
Eh bien, Maurice Kamto, le candidat du MRC, a effectivement, vous l'avez dit, revendiqué sa victoire à cette élection 24 heures à peine après le vote qui a eu lieu dimanche. Seulement, dans sa déclaration, il n'a avancé aucun chiffre ni évoqué la moindre tendance. Il a juste fait référence, vous l'avez indiqué tout à l'heure, à une métaphore dont il s'est fait le centre tout au long de sa campagne. Le pénalty qu'il a dit avoir tiré et marqué, un pénalty qui, expliquait-il pendant ses meetings, allait être sifflé à la fin du match, de telle sorte que le marqué lui garantirait de remporter la victoire. Il a par ailleurs donné un effet amplificateur à cette annonce en appelant le président sortant à créer les conditions d'une transmission pacifique du pouvoir. Après cette déclaration, les réactions en cascade et les réactions qu'elle a suscitées, ses équipes ont expliqué 2 jours plus tard que cette revendication reposait en fait sur des certitudes acquises au terme de la compilation des procès-verbaux issus des dépouillements dans les différents bureaux de vote à travers le pays.
Oui, il affirme avoir des éléments fiables, des informations fiables, les procès-verbaux rabot en notre possession, a-t-il dit, nous donne une victoire incontestable, mais sans donner pour autant, et vous le disiez à l'instant, Polycarpe, des chiffres précis, ni le moindre pourcentage. Vous aviez une autre question, Florent ?
Oui, comment ont réagi les principaux candidats, notamment Paul Biya ?
Alors, notamment Paul Biya. Paul Biya a-t-il réagi, Polycarpe Samba ?
Alors, Paul Biya n'a personnellement pas réagi, du moins pas jusqu'ici, et qui connaît le président camerounais, on se doute bien qu'il ne réagira pas, mais dans son camp, ça a été une vraie avalanche de réactions, autant au sein du directeur de son parti, le RDPC, qui le même jour, en réponse à Maurice Kamto, a tenu un point de presse où une déclaration du secrétaire général Jean Kouété a été lue. Dans celle-ci, il a condamné la sortie de Kamto, évoquant un propos séditieux, d'appel à la révolte et irresponsable. Il a par ailleurs invité les militants à ne pas céder à la provocation. Plusieurs ministres ont aussi pris la parole avec des propos se situant exactement dans le même sillage, condamnant tout aussi les propos de Kamto, ainsi que d'autres candidats par ailleurs qui ont participé à cette élection présidentielle.
Oui, parmi ces candidats, on peut citer Joshua aussi, candidat du SDF, qui déclarait lundi que donner des résultats à ce stade était un peu prématuré. Un autre candidat a également rejeté la proclamation de Maurice Kombo. Il a d'ailleurs accusé Maurice Kombo de créer des troubles. Et on voit bien que l'attitude de ce candidat est loin de faire l'unanimité. Merci beaucoup, Polycarpe Samba. Florent, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end à Yaoundé, au Cameroun. Des questions maintenant sur le départ, pour le moins surprenant, de Nikki Haley. Bonjour Ismaël.
Bonjour.
Vous nous appelez d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, oui. C'est bien ça, voilà.
Oui, on vous écoute,
soyez le bienvenu.
Merci, à vous. Alors, Nikki Haley, l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, a annoncé sa démission en début de semaine. Comment expliquer ce départ à l'approche des élections de mi-mandat?
On va répondre déjà, si vous le permettez, à cette première question. Vous en avez une autre, visiblement, Ismaël. C'est vrai que le calendrier peut surprendre, hein. Pour le moins, la question est intéressante. Corentin Célin, bonjour.
Bonjour.
Professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis, vous êtes auteur du blog Il était une fois en Amérique. La démission de Nikki Haley sera effective dans quelques mois, à la fin de l'année pour être précis. Mais pourquoi l'annoncer à 3 semaines des élections de mi-mandat, du midterms?
Alors effectivement, la question du timing de l'annonce reste particulièrement mystérieuse, mais par contre, sur le départ, ça paraît assez logique parce que Nikki Haley avait indiqué qu'elle resterait sur un mandat court, 2 ans environ. Elle ne voulait pas être trop longtemps ambassadrice à l'ONU parce que c'est un poste qui éloigne un petit peu de l'Amérique profonde, conservatrice. Et par ailleurs, de manière beaucoup plus prosaïque, Nikki Haley n'a pas forcément fait fortune en politique. Elle a des enfants qui entrent à l'université et elle avait déjà dit qu'elle souhaiterait faire un travail dans le privé plus rémunérateur.
Oui.
Donc, du point de vue du départ, et on l'a bien vu, hein, avec le président Trump, ça a été des tombereaux de louanges, de compliments respectifs, il y a vraiment aucun problème. Et par contre, on se demande effectivement pourquoi elle l'a annoncé maintenant, alors qu'elle ne part qu'en décembre, effectivement. Mais peut-être est-ce justement l'administration Trump qui sort d'une très très bonne période et qui donc pouvait faire passer ce départ dans la foulée sans que ça pose aucun problème. Et d'ailleurs, on le voit déjà, puisque ça a disparu des unes des journaux.
Oui, effectivement. En tout cas, vous avez raison, Corentin Célin, de rappeler que Donald Trump a dédramatisé le départ de Nikki Haley, puisque le jour de son annonce, tous les deux étaient ensemble dans le bureau ovale, en se faisant la bise, on a vu Donald Trump et on l'a entendu couvrir d'éloges l'ambassadrice américaine des États-Unis à l'ONU. Vous aviez une autre question, Ismaël?
Oui, Juan. Oui. J'ai appris aussi que Ivanka Trump pourrait remplacer Nikki Haley. Peut-elle être à la fois la fille du président américain et l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies?
Ah. Alors, je comprends votre question, Ismaël, et Corentin Sénat va nous éclairer. C'est vrai que tout vient de Donald Trump lui-même qui a dit devant des journalistes cette semaine que sa fille serait de la dynamite pour le poste d'ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Bon, après, peut-il aller jusque-là, Corentin ?
Alors, non, il ne le peut pas. Et lui-même, d'ailleurs, l'a ajouté à la fin de sa phrase parce que il en est empêché par une loi de 1967, le statut anti-népotisme, qui avait été voté, d'ailleurs, à la suite de la nomination par John Kennedy de son frère Robert comme ministre de la Justice. On s'en souvient pas, mais ça avait fait beaucoup tiquer à l'époque. Et donc, depuis 1967, une loi interdit à un président de nommer des membres de sa famille comme ministre, ambassadeur, enfin toute fonction publique qui est soumise à l'approbation du Sénat. Par contre, il peut tout à fait les nommer dans son cabinet à la Maison-Blanche, dans son équipe à la Maison-Blanche, qui elle n'est pas soumise à l'approbation du Sénat, ce sont des sortes de conseillers privés. Et c'est pour ça que, par exemple, il emploie Jared Kushner et Ivanka comme conseillers privés à la Maison-Blanche. Mais par contre, la haute fonction publique et les postes de ministère, c'est interdit depuis 1967.
Oui, ce qui ne l'a pas empêché de, donc, d'annoncer cette information et d'ajouter qu'il n'y avait personne d'autre de plus compétent que sa fille dans le monde pour occuper ce poste. On connaîtra très certainement le nom successeur de Nikki Haley dans les prochaines semaines. Hein. On n'attendra pas le mois de décembre, hein, Corentin.
Non, absolument. La recherche est en cours. On est un peu surpris car un nom se détachait, celui de Dina Powell, une spécialiste des relations internationales, proche du cercle Bush, arabisante. Mais elle a été écartée hier et pour l'instant, c'est le plus grand mystère parce qu'on ne voit pas du tout qui pourrait remplir ce rôle. Mais Donald Trump a dit qu'il avait du temps et qu'il se donnait du temps puisque Nikki Haley ne part qu'en décembre. Mais normalement, il devrait donner le nom juste les midterms, donc au début novembre.
À suivre donc. Merci Corentin Célin, spécialiste des États-Unis. Dernière question de la semaine. Bonjour Michel.
Bonjour Anne, bonjour à toute l'équipe et à tous les auditeurs.
Merci, vous êtes à Brazzaville, on vous écoute.
Oui, justement, Juan, plus d'une semaine après la démission de Gérard Collomb, un remaniement gouvernemental n'a toujours pas eu lieu. Pourquoi la formation d'un nouveau gouvernement prend autant de temps ?
Ah, c'est vrai que le remaniement était attendu pour mardi, pour mercredi. Finalement, l'Élysée l'a annoncé. Pas de changement avant le retour du président Macron du sommet de la francophonie. Donc, ce soir au plus tôt, mais probablement et très certainement après le week-end. Bonjour Martial Foucault.
Bonjour.
Directeur de Centre de Recherche Politique de Sciences Po, directeur donc du CEVIPOF. Qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi le remaniement ministériel tarde-t-il à venir ?
Oui, on peut effectivement s'interroger pourquoi cette fois-ci cela prend autant de temps dans l'histoire récente de la cinquième. En général, c'est une histoire de quelques jours. Je dirais qu'il y a deux raisons dans le cas de figure maintenant qui pousse sans doute Emmanuel Macron à la fois à jouer une partie politique et puis il y a aussi des éléments institutionnels nouveaux. Des choses qu'on n'avait pas par le passé. Si ça prend beaucoup de temps, c'est que effectivement, il faut trouver déjà le bon candidat pour remplacer un ministre ou plusieurs. Il semblerait que plusieurs ministres seront remplacés. Et la nouveauté depuis 2017, c'est l'installation de cette haute autorité transparence de la vie publique. Il s'agit de solliciter cette haute autorité pour faire des vérifications sur le casier judiciaire des candidats potentiels, des vérifications fiscales, des vérifications aussi professionnelles. Quelles activités ont-ils occupées par le passé pour qu'il n'y ait pas un risque de conflit d'intérêts en fonction du portefeuille ministériel dont ils disposeront.
Alors Martial Foucault, ça c'est la version officielle, c'est ce que dit l'Élysée et son entourage, mais est-ce que finalement Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui a tout de même le dernier mot, n'a pas des difficultés à recruter, et notamment recruter à gauche, puisqu'il veut recruter à gauche?
Ça c'est le deuxième élément, l'aspect plus politique. Oui, certainement des difficultés. Il faut bien voir que le poste de ministre de l'Intérieur, ce n'est pas un ministère comme les autres. C'est un ministre qui va s'occuper des enjeux de sécurité, de terrorisme. Il a également le rôle d'organiser la vie de l'administration du territoire avec les préfets, organiser les élections. Donc ça veut dire qu'Emmanuel Macron doit trouver un ministre de confiance, mais qui va pouvoir travailler avec le Premier ministre. Et je pense qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle ça prend beaucoup de temps, c'est que le Premier ministre Édouard Philippe souhaiterait une équipe, c'est-à-dire des ministres avec lesquels il peut travailler en toute confiance, et Emmanuel Macron n'a pas envie de donner un pouvoir trop grand, trop ample à un Premier ministre.
Et d'ailleurs, les commentateurs l'ont souligné ces derniers jours en évoquant peut-être des désaccords entre le président de la République et le Premier ministre. Merci beaucoup, Martial Foucault.